News FM en mode hors les murs. Samedi 4 juillet 2026, c'est l'événement VO2 Max du côté de la MJC Prémol de Grenoble et l'Union sportive du village olympique fête ses 50 ans. En partenariat avec le dispositif Quartier d'été de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
De retour depuis le quartier du village olympique, on le disait tout à l'heure, hein, nous sommes toute la journée donc, dans le cadre des 50 ans de l'USVO, un spécial VO2 Max, différents invités qui vont partager le micro avec nous aujourd'hui. Et là on a donc Michel, ça va Michel? Il est perturbé, Michel, il s'entend pas. T'as pas besoin du casque, Michel. Hein.
Ah, c'est bon,
tu peux faire comme moi à l'ancienne, en fait. On est des vieux avec cheveux blancs, nous.
À l'ancienne, il y a
donc,
pas de
Michel, Michel Reynaud, donc, président, c'est ça, hein, ou pas?
Non, je suis pas président, juste représentant.
T'es un représentant, du coup, de la Ligue panafricaine, Umoja.
Tout à fait, ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la Ligue panafricaine, c'est quoi? Ça est, tu vois. Alors, ça représente quoi?
Déjà, moi, je représente la section Grenoble-Lyon.
Voilà.
Donc déjà, c'est une association qui est surtout sur Paris, en fait. On existe depuis 2012, concrètement. On est dans plusieurs pays.
D'accord.
Togo, Sénégal, aussi au Canada, en Haïti, aussi en Martinique et en Guadeloupe.
Donc d'accord.
Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment l'idéologie du panafricanisme, à savoir l'unité entre l'Afrique et sa diaspora.
D'accord.
Voilà. Donc on part du principe où le panafricanisme est une vision politique qui peut nous permettre d'avancer, qui peut permettre à l'Afrique d'avancer en retrouvant son autonomie et sa souveraineté. Que ce soit sa souveraineté économique, que ce soit sa souveraineté philosophique, que ce soit sa souveraineté politique.
D'accord. Donc tout ça, ça passe en fait, j'imagine, par des conférences, par des expos aussi. Il y a un stand, hein, vous avez un stand aujourd'hui
tout à
en fait,
fait, tout
de
à
l'association.
Fait. Donc on fait pas mal de conférences, on fait des expos. On a par exemple trois grosses expos qui tournent un peu partout en France. L'une première qui s'appelle les Black Panthers du film.
Ah, d'accord, ouais, l'issue du Black Panthers du coup.
Voilà, okay. Du film au parti. Alors c'est important, pourquoi c'est important pour nous cette année cette exposition? Parce que cette année, ça sera les 60 ans de la création du Black Panther Party, qui est effectivement un grand mouvement qui est né aux États-Unis, un mouvement de lutte pour la communauté afro-américaine.
Afro-américaine, ouais.
Donc voilà, donc c'est une espèce de mélange entre les idées de Malcolm X et les idées de Martin Luther King.
D'accord.
À savoir que l'idée de Martin Luther King, c'est qu'il faut qu'on s'aime nous-mêmes, c'est important de s'aimer nous-mêmes si on veut avancer. Et la théorie de Malcolm X, c'est un peu par tous les moyens nécessaires.
C'est ça, on a quand même deux personnages effectivement qui ont quand même marqué leur époque.
Tout à fait.
Avec effectivement un dialogue très différent.
Voilà, tout à fait.
Un très revendicatif. Et un plutôt dans la défense.
Après, on a souvent voulu opposer ces deux individus, mais
je dis pas qu'on les oppose, je dis juste que c'est deux personnages avec
deux philosophies différentes. Un qui était plus pour la non-violence, tout à fait, c'est parfait. Non, parce que souvent on voit qu'on les oppose, alors que c'est vraiment deux visions différentes. Un qui est par rapport à plus à l'auto-protection, l'autodéfense, et l'autre qui est plus par la non-violence de Martin Luther King.
C'est ça.
Mais tout ça, effectivement, pour une meilleure souveraineté de la population afro-américaine.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc ça, il y a cette expo-là, et du coup, il y a aussi, tu me l'as montré tout à l'heure.
Voilà, il y a aussi
d'ailleurs,
l'expo.
Je t'ai dit que j'adorais l'avoir, en fait, du coup, autour de l'histoire du hip-hop, en fait, création dans le Bronx.
Tout à
et
fait.
Et qui fait un lien, un parallèle, en fait, avec les luttes sociales.
Tout à fait.
Et du coup, qui rebondit aussi dans d'autres pays européens, comme la France.
Voilà.
Parce que du coup, c'est vrai qu'à une époque, le rap était très revendicatif. Du coup, ça parcourt un peu tout cheminement, mais en partant des États-Unis.
Tout à fait. En fait, on est parti de l'origine du rap, qui est né le 14 août.
Je crois c'est à 70, non, c'est
15 ça 73.
Ah, 73, oui.
Et effectivement, comme c'était 50 ans des 50 ans du hip-hop en 2023, nous, on a pris du recul, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est devenu le hip-hop, en fait? Parce qu'entre ces valeurs du début et ce qui est devenu aujourd'hui, le côté mercantile, le côté business, le côté faire de l'argent...
Le rap est devenu de la variété pour beaucoup,
même
en fait.
On est passé un peu du rap à message au rap à image, en fait.
Bien sûr.
Et du coup, par rapport à ça, on a dit, bon, il faut revenir aux valeurs de base. Revenir aux valeurs de respect, revenir aux valeurs de non-violence forcément, de respect des anciens, de respect des femmes, de respect des plus petits, avec des codes. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, entre le panafricanisme et le hip-hop, il y a vraiment beaucoup de valeurs communes. À la base, déjà, c'est la même origine, tous les deux sont nés de la diaspora et sont allés après en Afrique. Voilà, donc par exemple, le panafricanisme est né en Haïti pour aller en Afrique, le hip-hop est né aux États-Unis. Mais d'un DJ jamaïcain, à la base, pour ensuite s'étendre en Afrique. Donc c'est vraiment une idéologie qui rassemble, qui unit, et qui permet aux générations de vivre plus en paix et de construire de façon positive pour l'avenir des enfants.
Leur histoire, en fait,
de transmission.
C'est parce qu'effectivement la question d'histoire, tu m'as, du coup pour moi ça ramène effectivement à une chose qui est essentielle, c'est l'histoire. L'histoire est importante de tous les pays.
Alors c'est vrai que l'histoire est importante, mais après c'est ce qu'on en fait de cette histoire.
Bien évidemment.
C'est vraiment ça qui est
important.
Important
de la connaître, l'histoire. Aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup.
Disons que c'est important d'avoir une autre version de celle qu'on nous apprend à l'école.
C'est ça. En fait beaucoup de nos jeunes effectivement méconnaissent en fait, mais du coup ça fait le, tu m'as, j'allais dire ça fait la transition, non mais nous on a travaillé il y a récemment, on a travaillé avec des jeunes en fait autour de la colonisation par exemple. Et c'est vrai qu'en fait c'est pas appris à l'école, ou c'est appris mais un petit peu, mais c'est vrai qu'on parle pas de la colonisation, on parle pas de la de tout ce qui s'est passé en fait, de la fameuse dette aussi de tous ces pays africains quand elles ont voulu se libérer. Haïti a été le premier pays d'ailleurs qui en paye le prix aujourd'hui, c'est que quand ils ont voulu leur quand ils ont voulu être libérés, on leur a dit ok vous êtes libérés mais du coup vous nous devez tant.
Tout à fait, c'est la dette de Haïti, la fameuse dette de Haïti. Qui a été promulgué en 1865.
C'est le peuple, du moins pour moi c'est le peuple premier, premier parce qu'en fait c'est le premier pays qui se libère de la, du joug en fait du colonialisme.
Tout à fait. Nous c'est là pour nous qu'est né le panafricanisme. Concrètement le panafricanisme est né avec la naissance de la première république noire qui est Haïti le 1er janvier 1804. Donc voilà. Et d'ailleurs on sait très peu que la première grande défaite de Napoléon c'était le 18 novembre 1803, la bataille de Vertrière, qui était la première grande défaite de Napoléon, qui voulait rétablir l'esclavage en Haïti, et s'est fait chasser par les Haïtiens. Lui, sa troupe et son beau-frère à l'époque, qui commandait les troupes françaises, et sont fait chasser. Voilà. Donc c'est là pour nous la première grande bataille, la bataille de Vertrière, le 18 novembre 1803, qui a donné naissance à la première République noire, 1804, Haïti. Mais c'est pour ça qu'Haïti, après, on lui a fait payer méchamment. Les Français n'ont pas supporté de perdre contre un ancien esclave. Les États-Unis n'ont pas accepté de voir des Noirs qui se libèrent d'eux-mêmes,
ouais,
sous la pression. Et ces deux pays, la France et les États-Unis, ont vraiment mis toute la pression qu'il fallait pour éviter que ce pays se développe. C'est ce qui explique aujourd'hui la pauvreté
Et l'État, effectivement, aujourd'hui,
L'État de Haïti, aujourd'hui. Par exemple, il y a une dette en Haïti qui a été payée. C'est-à-dire que pour se libérer, la France a dit pour qu'on accepte votre libération, vous allez nous payer une dette. C'est-à-dire que vous êtes libéré, mais vous allez nous payer. Et Haïti a payé jusqu'en 1946-47 toute sa dette à la France. Et ça, au niveau économique, c'était tout son PIB qui partait. Et elle n'a jamais pu se remettre de ça. Sa fameuse dette que certains redemandent à être remboursée, que la France dit non. Et
oui, aujourd'hui, on est plutôt là-dessus. Parce qu'en fait, là, on cite Haïti, mais il y a d'autres pays en fait, qui ont dû se libérer, qui sont libérés du joug colonialisme et qu'en fait. Qui eux aussi en fait ont cette fameuse dette.
Haïti a un peu l'image de l'Afrique, c'est-à-dire que tous les pays qu'on dit soi-disant endettés, si on les réfléchit historiquement parlant, aucun pays africain n'est endetté.
Endetté réellement,
ils ont fait des anciennes puissances coloniales.
En fait, du moins, si on reprend en effet, comme on dit, le fait colonial, et si on reprend le fait surtout historique, en fait, les pays, en fait, déjà, les colons, en fait, ceux qui ont colonisé ces pays-là, en fait, se sont déjà en fait largement payés à travers tout ce qu'ils ont pu retirer de ces pays, de la force de travail et puis les richesses en fait pétrolifères, le gaz et j'en passe, le sucre pour Haïti en fait, parce que c'était un vivier important pour la canne à sucre. Mais je pense que
le bois aussi.
Le bois aussi, oui. Le bois rare pour l'exportation.
Haïti a été vraiment déboisé par les grandes compagnies françaises.
Et justement, sur cette question-là aujourd'hui, la Ligue travaille sur ces sujets-là en fait au niveau de l'ONU, au niveau politique ou pas
c'est
du tout.
C'est la fameuse thématique de la réparation en fait.
D'accord.
Cette thématique de réparation, c'est une thématique d'avenir. C'est-à-dire comment aujourd'hui on répare les maux qui ont été faits. Alors souvent les gens ont l'impression qu'on demande fortune, qu'on demande comptant la main, quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est on demande justice. C'est-à-dire quand il y a eu un méfait, la réparation, c'est rendre justice. Donc rendre justice pour nous, c'est rendre justice. Et ça ne se fait pas que financièrement. Bien sûr, ça peut se réfléchir financièrement. Il y a des gens qui, aux États-Unis, des banquiers qui ont réfléchi, des économistes qui ont réfléchi comment économiquement parlant, comment financièrement parlant, ça pouvait se rembourser. Mais nous, on dit le plus important, c'est vraiment qu'il y ait une trace de cette histoire, que déjà l'histoire des colonisés soit écoutée, parce que pour l'instant, on n'écoute que l'histoire des colons, que l'histoire des victimes d'esclavage soit écoutée, qu'on passe celle de ceux qui l'ont faite. Et du coup, ça ramène un rapport de force qui est totalement différent.
D'accord. Et donc, en fait, ce travail, du coup, on le présente. J'imagine que c'est l'ONU, c'est les Nations Unies.
C'est déjà nous, comment on prend cette situation en main.
D'accord.
Nous, descendants d'esclavagisés, descendants décolonisés, comment on prend cette histoire en main. Ça pourra venir que de nous. Après, les autres instances, certes, on pourra remettre la pression, mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience par nous-mêmes que c'est important pour l'avenir de nos enfants. C'est ça le plus important, prendre conscience de l'histoire et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui.
D'accord. Toi, du coup, c'est donc une lutte qui continue Et en fait, il y aura pour toi, du coup, d'abord l'histoire en fait qui est à revoir et à retravailler, et l'histoire qui est à transmettre, et ensuite une bagarre plutôt idéologique en fait sur le plan politique.
Il y a une histoire politique, certes. Il y aura une histoire économique, parce que la traite négrière, la colonisation, c'est une histoire économique. Donc il y a des gens qui sont enrichis dessus et que voilà, et qui vivent bien aujourd'hui. Donc ouais, il y a une question économique, il y a une question idéologique, il y a une question aussi philosophique. Ça ramène plein de questions profondes. Et ça ramène aussi une relecture de tout ce qu'on a pu nous apprendre à l'école.
C'est ça. Mmh. Et justement, sur le plan historique, en fait, aujourd'hui, quand on voit, du moins, on est parents tous les deux, donc on a pu voir les livres d'histoire de nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a quand même des pans entiers en fait, de cette histoire qui n'apparaît pas, en fait. Ou qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des bribes, en fait. Alors que pourtant, la France a brillé, ou en tout cas a fait briller, quand on parle du Vietnam, quand on parle des pays du Maghreb, en fait, dans lesquels elle était. On va parler de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, et puis d'autres pays africains où elle était omniprésente. Toute cette manne économique, cette force de travail qui a travaillé pour ce pays, en fait, ça, on l'oublie, en fait. Il y a nous, mais il y a la Belgique, il y a le Portugal, il y a d'autres pays, en fait.
Il y a toutes les grandes puissances coloniales. Oui. La France, c'était l'une des premières grandes puissances coloniales. Oui. C'était quand même la troisième puissance esclavagiste. Oui. Donc voilà, les gens ont tendance à l'oublier. Moi, c'est vrai que c'est un combat que je mène depuis une vingtaine d'années. Et au début, chaque fois que je parlais d'esclavage, les gens ramenaient tout ça à l'histoire des États-Unis. Et quand on ramène ça à l'histoire de France, je me dis, mais attendez.
Il y a les Anglais aussi. On les oublie pas, les Anglais.
D'ailleurs, c'est très important quand même. Pendant la France, ils ont mis en place le Code Noir. Ouais. Le Code Noir qui a été promulgué il y a seulement quelques semaines, en fait.
Et certains députés disaient que c'est pas très grave.
Voilà.
C'est pas très grave, c'est pas une priorité. Alors qu'en fait, quand tu le dis, c'est un fait, du moins. Même pour la mémoire. Bah, pour la reconnaissance, c'est important, en fait.
Pour la reconnaissance qui est important. Et puis, c'est aussi quelle place on met aujourd'hui à ces descendants-là. Quand aujourd'hui, une semaine après, par exemple, on a l'histoire du chlordécone, l'empoisonnement.
Le rejet, en fait.
Il y a un non-lieu.
Ouais,
ça prouve que finalement, ces gens, les gens issus de l'esclavage, les gens issus de cette histoire colonisée, ne sont pas traités comme les autres. Mmh. Parce qu'il y a un empoisonnement volontaire de l'État. Et aujourd'hui,
je crois que c'est important de rappeler, en fait, le chlordécone, en fait, donc c'est un produit chimique, un engrais, hein, il me semble, si je dis pas d'annerie, qui a été utilisé effectivement, du coup, en Outre-mer, interdit en France et dans les pays européens.
Mm-hmm. Et aux États-Unis, interdit aussi.
Ouais, mais voilà, mais bon, bien évidemment, interdit de partout.
Voilà.
Sauf effectivement là où les anciennes colonies, ça reste
des. Martinique, Guadeloupe,
La Guadeloupe, ça fait partie de la France, faut pas l'occulter.
C'est tout à fait, faut dire
mais
ça.
C'est, voilà, mais ça reste effectivement des anciennes colonies. Là, par contre, c'est autorisé. Et là, en plus, donc, il n'y a pas de reconnaissance des maladies, en fait, que ça a provoqué. Ça a pollué la terre.
Aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe sont les îles où le cancer du pancréas est 7 fois plus élevé que dans le reste du monde.
Voilà. Ouais.
Et ça, on sait que c'est la suite de l'empoisonnement au chlordécone. Le chlordécone empoisonne les eaux. Le chlordécone empoisonne les terres. Donc, suite à ça, il y a vraiment un problème de sanitaire.
De santé publique, en fait.
Santé publique est profond. C'est un peu comme... l'amiante.
D'accord.
En bien plus grave, sachant que c'est l'État qui a signé le contrat pour qu'on utilise les stocks qui restaient le plus longtemps possible. Parce que les gars, quand ça a été interdit, il restait un stock. Du coup, la France a permis qu'on vide les stocks de chlordécone avant d'interdire vraiment le truc.
D'accord.
Disant que ça, on savait que ça empoisonnait, mais comme les gens avaient acheté un stock et qu'ils voulaient le finir, notamment la casse béquée, en fait, les anciens descendants d'esclavagistes, on continuait à utiliser ce chlordécone pendant des années. Il a empoisonné, et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui le cancer de la prostate est très développé là-bas.
D'accord. Donc j'imagine qu'il va y avoir un appel ou pas, parce que là en fait, on en a. Je me souviens un peu à quel niveau c'est un rejet au niveau.
Je pense qu'il va y avoir un appel peut-être au niveau de la Cour européenne.
Au niveau de la Cour européenne.
Je suis pas sûr, je sais pas trop où c'en est, mais je crois qu'effectivement la prochaine étape c'est la Cour européenne.
D'accord.
Vu qu'effectivement.
Cour européenne des droits de l'homme.
Voilà.
D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a de l'actu en fait pour votre asso, du moins, pour la Ligue?
Alors nous, on travaille avec des associations qui font que ça, voilà, parce qu'on a plein d'autres registres. Nous, on est plutôt dans un système, tout ce qui est décolonisation des esprits, décolonisation, et une unité panafricaine, donc entre tous les pays déjà du continent, et ensuite tous les gens issus de la diaspora.
D'accord.
Diaspora, c'est les gens proches, mais aussi les gens loin, la diaspora antillaise, la diaspora haïtienne, la diaspora tout ça et tout. Donc voilà.
D'accord. Il va y avoir des événements, des choses à venir ou
Là, c'est les vacances.
Je pensais à la rentrée. Hein.
On ralentit. La semaine dernière, on avait la journée des enfants africains et afrodescendants.
D'accord.
On a fait sur Paris, où il y a eu pas mal de monde, qui est toujours effectivement pour donner aux parents un contenu autre ce qu'ils ont que ce qu'ils ont ou en plus de ce qu'ils ont à l'école.
Et
bien souvent, quand on veut apprendre un peu à vos enfants l'histoire de l'Afrique, l'histoire de son continent, les coutumes, quelque chose comme ça. Et on a du mal à le retrouver.
Ouais.
C'est pour ça que par exemple à notre stand on n'a pas mis pas mal de livres, qu'on peut pas trouver à Grenoble quasiment.
Ouais. Donc,
ces livres, j'ai trouvé à Paris, je les ramène de Paris. Mais pour avoir une vision de l'histoire et tout, il faut parfois des lectures. Comme on dit, le savoir est une arme.
Mmh,
c'est Cheikh Anta Diop qui disait il faut s'armer.
Je confirme, le savoir est une arme, je confirme.
Et donc, du coup, effectivement, s'armer de savoir, c'est bien, mais encore faut-il avoir le savoir.
D'accord.
Et souvent, ils restent concentrés. Okay. Voilà.
Si les gens veulent te contacter, Michel, pour la Ligue panafricaine Umoja, comment ça se passe?
Alors, il y a un numéro qui est sur notre tract. Je ne connais pas par cœur.
Alors, du coup, il y a un numéro de téléphone. Ouais, du coup, c'est lp-umoja.com. Donc, ça, c'est le site internet en fait de l'asso. Il y a un numéro de téléphone.
Alors, le numéro de téléphone, on peut éventuellement m'appeler.
Donc là, il y a
un numéro de téléphone.
Il y a un numéro de téléphone aussi.
Il y a un numéro de téléphone qui est dessus, ouais.
Alors 07 83 60 31 86, je répète. 07 83 60 31 86. Donc lp-umoja.com. Donc la Ligue panafricaine Umoja. Donc voilà. Des choses très intéressantes. Merci Michel.
Bah, c'est un plaisir. Merci à vous de
pour
m'accueillir.
Ce petit temps. Bah, non, merci à toi. Et on précise quand même que tu n'es pas là par hasard. voilà, moi je sais que tu es bénévole aussi à l'USVO.
Ouais.
On peut dire que t'es formation kiné, du maté kiné, donc du coup tu soignes aussi les gens du club.
Je soigne les gens du club aussi,
voilà. Ouais,
donc je vois aussi les gens du club et c'est toujours un plaisir de travailler avec le club USVO parce que c'est ça aussi qui est important, c'est les valeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient aussi au niveau du panafricanisme parce que le panafricanisme c'est aussi des valeurs, les valeurs d'unité, les valeurs de respect, les valeurs de solidarité. Et c'est ces valeurs-là qui, quelles que soient nos idées, quels que soient nos parcours, nous rassemblent, nous permettent de construire ensemble. Donc c'est important ces valeurs. Nous par exemple à la Ligue, une des valeurs panafricaines qui est importante c'est l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. C'est une façon de dire que l'individu n'est rien sans le groupe et le groupe n'est rien sans l'individu. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit les uns par rapport aux autres.
C'est voilà. Ça, c'est ce qui fait la richesse.
Pour moi est une valeur importante aussi à mettre de plus en plus dans nos quartiers. C'est-à-dire que c'est pas la valeur de les uns au-dessus des autres, mais c'est la valeur où chacun dépend de chacun. On est tous unis. Voilà.
On va terminer là-dessus, c'est magnifique ce que tu dis. Merci, Michel, merci beaucoup.
À bientôt, et merci
à bientôt, merci à Allez, toi.
Merci
Sana.
News FM en mode hors les murs.
Samedi 4 juillet 2026, c'est l'événement VO2 Max du côté de la MJC Prémol de Grenoble et l'Union sportive du village olympique fête ses 50 ans.